Décryptage, Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Ces dernières années, il y a eu de nombreux scandales alimentaires dans le monde. Demain, vendredi, doit être rendu en Belgique le jugement dans l'affaire des œufs contaminés au fipronil qui a contribué à retirer du commerce des millions d'œufs en Europe. Alors ça nous amène à nous interroger sur ce que nous avons dans notre assiette aujourd'hui. Ce souci de la traçabilité qui s'exprime de plus en plus, et particulièrement depuis la crise du Covid-19, comment cette traçabilité évolue? Comment les habitudes alimentaires évoluent-elles? Quelles préoccupations vis-à-vis de l'environnement également? Et comment parvenir à un meilleur équilibre alimentaire dans le monde? Ce sont nos questions ce soir. Bienvenue dans Décryptage. Et pour y répondre, notre invité est Olivier Andreau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargé de mission alimentation chez UFC. Que choisir? Qu'y a-t-il dans mon assiette? Alors, ce n'est pas une question qui est nouvelle. Dans les pays occidentaux, elle se pose régulièrement ces dernières années. Pourquoi cette interrogation? Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de menaces? J'évoquais les scandales alimentaires. Ou est-ce que c'est parce que finalement, au nom du progrès, aujourd'hui, on est en droit de savoir quels aliments on mange et ce qu'ils comportent?
Je pense que c'est un peu des deux. Il est clair que les scandales alimentaires, qui sont déjà anciens, hein, rappelez-vous la vache folle, hein, les lasagnes à la viande de cheval, etc. Et c'est clairement ça qui a déjà fait qu'on a arrêté de faire une confiance complètement aveugle à l'industrie agroalimentaire. Et il faut se rappeler qu'il y a un siècle, avec le début de l'industrie agroalimentaire, c'était une garantie de qualité. Un produit industriel, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était un produit de luxe, un produit qui coûtait cher, c'était un produit pour les personnes riches. En plus d'un siècle, ça a complètement changé.
Ça s'est complètement inversé.
Et il y a eu, donc, je dirais, à partir des années 70, cette évolution avec les premiers scandales alimentaires qui sont arrivés. Et donc, il y a ce besoin maintenant de savoir, mais qu'est-ce qu'on met dans mon assiette? Qu'est-ce que les industriels font quand je leur délègue ma responsabilité, puisque c'est plus moi qui fais la cuisine, très majoritairement, en France en tout cas, et de plus en plus dans les pays développés. Qu'est-ce qui se passe dans les arrière-cours des industriels, dans leurs laboratoires?
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Et aussi, décider qu'est-ce que je veux manger. Le bio, par exemple, c'est quelque chose... Alors, on va citer la France, mais on va pas s'arrêter dans cette émission qu'à la France, mais le marché du bio a triplé en 10 ans. Il y a aussi cette envie de prendre les devants et de décider ce qu'on va manger.
Ça, c'est quelque chose qui est très nouveau, effectivement. Et ça, c'est quelques années, cette volonté de reprendre le pouvoir. Et pourquoi reprendre le pouvoir? Je pense que, tout d'abord, parce que là, il y a un défaut de la part des pouvoirs publics, hein, qui ont autorisé finalement un certain laisser-aller qui a permis ces scandales, et puis aussi bien évidemment une responsabilité de l'industrie agroalimentaire dans une recherche effrénée de marge. C'est clair que la marge, acheter notamment par exemple les ingrédients le moins cher possible, où qu'ils soient sur le globe, c'est-à-dire en clair la fonction d'acheteur, qui est une fonction essentielle dans l'industrie agroalimentaire, un bon acheteur, il doit avoir un nombre de fournisseurs qui est limité, dont il connaît parfaitement la fiabilité. Sauf que si vous voulez acheter n'importe où, à n'importe quel moment, l'ingrédient le moins cher, vous n'êtes plus un acheteur, vous êtes un trader. Et donc, du coup, là, vous mettez en risque, finalement, la qualité de votre produit et donc votre consommateur.
Le critère du moins cher, c'est plus quelque chose qui vaut aujourd'hui? Alors, c'est compliqué d'en parler à l'échelle mondiale.
Ça restera de toute façon un critère important. Il faut savoir que le budget alimentaire en France, ça reste quand même un des premiers critères, un des premiers budgets, un des premiers postes budgétaires, hein, après évidemment l'habitation.
Alors, ce souci de la traçabilité progresse, on le dit. On estime que la consommation alimentaire, et ça rejoint ce que vous nous disiez, Olivier Andreau, a connu une mutation sans précédent entre 2010 et 2020. Et les experts estiment même qu'en France, on est passé de 2019 à 2030 directement en termes d'alimentation. Ça progresse, et est-ce que la traçabilité progresse? Est-ce que justement, on a accès à ces informations plus facilement?
Ça, tout doucement, ça progresse. Hein, c'est vrai que là encore, le scandale de la viande de cheval dans les lasagnes, vous vous rappelez? C'est un problème où justement vous avez des acteurs multiples. Donc c'est là, à cette époque, que finalement le consommateur, le citoyen, s'est rendu compte de quelque chose qui était un secret de Polichinelle, pour ceux qui connaissent les filières de l'industrie agroalimentaire, à savoir que c'est d'une énorme complexité, vous avez une cascade d'intervenants, et finalement c'est tellement compliqué que plus personne ne sait très bien d'où vient le produit. Ou en tout cas, ça prend du temps pour retrouver le produit. Et donc, je pense que ça a motivé les gens pour avoir une alimentation qui soit beaucoup plus locale, pour connaître finalement l'origine des différents ingrédients, pour regarder la liste des ingrédients, se rendre compte que parfois elle est incompréhensible.
Et il y a des applications qui se développent, Nutri-Score, Yuka, on ne va pas faire de publicité, mais qui se développent aussi pour savoir ce qu'il y a effectivement dans tous ces produits. Parce qu'on peut prendre les devants en choisissant évidemment des premiers produits, des matières premières, mais si on prend des produits transformés, on se dit aujourd'hui on a aussi accès au contenu de ces produits transformés. Même les lasagnes aujourd'hui, on sait ce qu'il y a dedans.
Vous pouvez savoir ce qu'il y a dedans si vous faites l'effort.
Par exemple, en France et ailleurs.
Alors, vous, dans une certaine mesure, hein, c'est-à-dire que, par exemple, sur la qualité nutritionnelle, vous avez le Nutri-Score. Mais voilà, ce qui est intéressant, voilà, c'est ça. C'est finalement, on se rend compte que la qualité nutritionnelle, il y a une vingtaine d'années, tenez-vous bien, les pouvoirs publics français, européens et mondiaux étaient parfaitement conscients de cette problématique alimentaire. C'est on mange trop gras, trop sucré, trop salé. Et qu'est-ce qu'on fait plutôt que finalement, de sommer l'industrie agroalimentaire d'améliorer ses recettes? Non, pas du tout. Les pouvoirs publics, dans tous les pays, et notamment en France, ont dit bah « Écoutez, on fait la place au volontariat. Vous, industriels, à vous de faire des efforts, et puis on sera très contents si vous tenez vos engagements. » Les engagements, vous savez ce que ça donnait? Quasiment rien. Ouais. Un enfant consomme en général de l'ordre de 100 grammes de sucre par jour. Après modification des recettes, etc., on estime que l'impact de ces mesures volontaires des industriels, eh bien, a diminué la consommation de seulement 1 gramme. 1 gramme sur 100 grammes, c'est-à-dire rien. Donc, ça veut dire que les pouvoirs publics n'ont pas le courage politique pour, finalement, améliorer les recettes. Et c'est pour ça que c'est aux consommateurs de prendre eux-mêmes leurs responsabilités. Et donc, par exemple, en utilisant cette appli, ils peuvent utiliser la nôtre qui s'appelle Quel produit, qui est gratuite dans toutes ses fonctionnalités et qui va vous donner le Nutri-Score. Pourquoi? Vous savez que c'est une bataille. Hein. C'était une bataille homérique. Toutes les associations de consommateurs réclamaient depuis des années un étiquetage nutritionnel qui soit enfin compréhensible. Vous savez, ce tableau de chiffres avec des chiffres à la virgule près que personne ne comprend. On a fini par l'obtenir en France et est en train de se développer au niveau européen. La Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne l'ont adopté. Donc, vous voyez, c'est vraiment une très bonne nouvelle.
Alors, c'est un paradoxe en même temps, ce que vous dites, parce que vous évoquez l'obésité qui progresse et en même temps, on a accès à toutes ces informations et on essaye de manger mieux.
Oui, mais c'est très nouveau. Le Nutri-Score, il a été officialisé en 2017 et il n'est pas obligatoire. Là encore, manque de courage politique de la part des pouvoirs publics français. Et bon, là, maintenant, bien, la prochaine étape, ça se passe au niveau européen. C'est-à-dire, est-ce que la Commission européenne, est-ce que le Parlement européen et les États membres, bien sûr, auront le courage politique de le rendre obligatoire pour que tous les consommateurs soient informés sur tous les produits alimentaires?
Donc finalement, on peut dire que les dirigeants aujourd'hui sont plus frileux que les consommateurs dans ce domaine de l'alimentation.
Mais bien sûr, il faut que vous sachiez qu'il y a un lobbying hallucinant actuellement à Bruxelles pour empêcher un étiquetage aussi facilement compréhensible tel que le Nutri-Score de s'imposer. Et donc vous avez l'Italie, par exemple, qui est en train de proposer un système particulièrement complexe, toujours dans cet objectif d'éviter que certains produits qui sont trop gras, trop salés, trop sucrés, eh bien affichent de manière trop évidente leur mauvaise qualité nutritionnelle.
En tout cas, le consommateur, lui, est de plus en plus motivé par le manger mieux. Et ce qui illustre justement ce souci accru de l'alimentation, une des illustrations en tout cas de ce souci-là, c'est la montée du véganisme. Et c'est une tendance qu'on retrouve dans de nombreux pays. On va écouter le témoignage de Konrad, qui depuis 6 ans tient le local vegan bistro, qui se trouve dans le centre de Varsovie, la capitale polonaise.
Je suis vegan depuis 2006 et je viens de Bialystok, une ville considérée comme conservatrice, y compris sur le plan du mode de vie et de l'alimentation. Dans les années 2000, il n'y avait qu'un seul magasin diététique où acheter du tofu. Aujourd'hui, on peut acheter ce qu'on veut comme nourriture végane grâce au supermarché qu'on trouve à chaque coin de rue. C'est devenu beaucoup plus facile pour les gens qui font ce choix.
Alors Olivier Andreau, la question qu'on pose ce soir dans le décryptage est de savoir si on mange de mieux en mieux dans le monde. Dans ce cadre-là, est-ce que la montée du véganisme, qui est observée notamment en Europe, est quelque chose de positif?
Je pense que là, la réponse n'est pas oui ou non. Elle est un peu complexe. Tout d'abord, il faut savoir que l'être humain n'est pas végétarien. Déjà, on est des animaux qui sont donc omnivores, carnivores, et on a besoin de notamment des protéines animales, notamment quand on est bébé. Vous savez, vous avez entendu peut-être parler de ces parents qui avaient nourri leur enfant avec des laits végétaux, et donc qui avaient eu une issue malheureusement tragique. Donc, on peut peut pas faire n'importe quoi. Donc, quand on se lance vers ce type d'alimentation, il faut faire extrêmement attention pour préserver son équilibre nutritionnel. Donc, le véganisme, c'est quand même assez compliqué. Maintenant, il y a quelque chose qui est indubitable. On peut pas, avec les milliards de citoyens que nous avons sur la Terre, on peut pas tous manger comme au paléolithique. C'est tout simplement pas possible. Parce qu'il faut énormément de ressources pour produire un kilo de viande, un litre de lait et beaucoup plus.
On va évoquer évidemment les enjeux environnementaux. Ouais.
Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose pour lequel on doit agir.
Mais c'est uniquement au nom de l'environnement? Davantage qu'au nom de l'alimentation? C'est parce qu'on évoque aussi souvent les dangers, entre guillemets, d'une consommation trop régulière de viande, ce qui fait qu'aujourd'hui on estime qu'il y a 30% de flexitariens en France, c'est-à-dire des gens qui essayent de manger moins de viande. C'est aussi pour la santé.
Mais c'est vrai. Alors après, c'est quel type de viande ou plutôt quel apport carné on mange. Hein. On sait qu'il y a un lien qui est quand même assez clair, notamment avec les maladies cardiovasculaires, sur par exemple des charcuteries, des produits carnés qui sont très gras. Il y a aussi la problématique de certains additifs qui sont utilisés, hein, les nitrates, nitrites, hein, où là, il y a également des risques très clairs qui sont indiqués. Et puis, disons-le franchement, dans notre alimentation occidentale, on manque vraiment pas de protéines. Hein. Donc c'est pas là le problème. Mis à part effectivement les seniors, hein, les personnes âgées où là il peut y avoir des déficits en protéines, mais sinon on en a largement assez. Donc on peut vraiment agir sur ce levier, faire manger plus de protéines d'origine végétale, manger par exemple des légumineuses, hein, et puis manger un petit peu moins de protéines carnées. On n'a pas besoin d'autant que ça. Mais après maintenant il y a d'autres critères qui sont importants aussi. Et d'autres motivations, par exemple le bien-être animal, ça c'est quelque chose de nouveau. De plus en plus, les consommateurs, à travers leurs choix, refusent eh bien d'élever, enfin de voir que des poules soient élevées en cage toute leur vie, que des bovins ne mettent jamais le sabot sur de l'herbe. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est les différents critères. On se rend compte que manger mieux, c'est pas que la nutrition, c'est pas que la bactério, c'est beaucoup plus riche que ça.
C'est aussi une idéologie.
Une idéologie, il y a une dimension un peu négative dans l'idéologie. Je pense que c'est quoi ? C'est finalement une réaction quand même globalement assez saine de la part du citoyen par rapport à un système qui était devenu un peu fou et qui n'était plus contrôlé par les pouvoirs publics. Il y a cette volonté de revenir à des produits beaucoup plus naturels. C'est ce que nous dit finalement le Programme National Nutrition Santé. Il nous dit mais arrêtez de manger que des produits industriels. Cuisinez par vous-même, mangez des produits bruts. Cette volonté aussi d'encourager l'agriculture locale, près de chez soi. Parce que c'est à la fois quelque chose de citoyen, c'est aussi quelque chose d'environnemental. La dimension de proximité de notre alimentation, c'est quelque chose d'important.
Mange-t-on de mieux en mieux ? Notre question ce soir dans Décryptage. Notre invité est Olivier Andreau, chargé de mission alimentaire chez UFC. Que choisir ? Alors c'est intéressant parce qu'on a évoqué évidemment le boom de cette réflexion du mieux manger dans le monde, mais est-ce que c'est pas finalement une réflexion un petit peu de riche quand on sait qu'aujourd'hui il y a près de 700 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim? Est-ce que justement c'est en France on prend de plus en plus soin de bien manger dans de nombreux pays finalement la priorité c'est pas de mieux manger, c'est d'abord de manger.
Effectivement, bien sûr. Hein, la première chose qu'on pourrait se poser comme question, effectivement, c'est comment se fait-il qu'il y ait encore des personnes qui n'arrivent pas à manger dans le monde ? Quelle est la part de responsabilité de notre système de production dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud ? Ces grands pays qui sont en capacité de vendre des produits agricoles à des coûts extrêmement faibles, qui vont finalement empêcher les agricultures locales de vivre, et donc finalement qui vont les annihiler. Donc il y a cette forme
alors
de responsabilité.
Alors qu'il y a une possibilité de nourrir ces justement populations locales. Est-ce qu'il y a des efforts aujourd'hui qui sont faits pour mieux distribuer cette alimentation aujourd'hui ?
Là, sur cet aspect-là, je ne suis pas un spécialiste de cette question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a encore des prix mondiaux qui sont extrêmement bas sur plein de denrées agricoles. Et donc, ce problème qui est évoqué maintenant depuis un moins un demi-siècle n'a jamais été résolu. C'est-à-dire que vous avez toujours cette volonté de certains grands pays agricoles. Hein, donc, on parle des États-Unis, du Canada, l'Argentine, le Brésil, mais la France aussi, hein, qui contribue finalement avec des productions à des coûts extrêmement bas à finalement empêcher des agricultures locales de subsistance de continuer à finalement à nourrir les gens sur place.
C'est vrai qu'à une échelle différente, la France est un bon exemple aussi, évidemment à l'échelle de la France, mais il y a un agriculteur sur cinq en France qui ne parvient pas à se payer.
Oui.
Donc c'est compliqué en fait, il y a un décalage entre finalement le souci du consommateur qui est prêt à payer très cher pour avoir des produits de qualité et finalement la première personne qui va produire ces produits qui n'est pas en mesure de se payer, et c'est le cas évidemment dans le monde encore plus.
Mais ça l'origine de ce scandale, c'est tout d'abord un rapport de force qui est absolument terrible en la défaveur du monde agricole. Il faut savoir que c'est la grande distribution qui impose ses prix d'une part à l'industrie et ensuite au monde agricole avec des prix qui malheureusement, dans beaucoup de cas, empêchent les agriculteurs de vivre. Il y a une loi tout récente en France, la loi Egalim, qui sur le papier est plutôt pas mal faite sur certains aspects, hein, puisque elle dit qu'a priori on devrait partir d'un prix rémunérateur pour les agriculteurs, sauf qu'elle n'a jamais été appliquée. Donc c'est ça aussi la question qu'il faut se poser, c'est comment est partagé le prix qui est payé par le consommateur. Vous savez que sur les fruits et légumes, lorsque vous payez 1 euro, il y a 50 centimes, la moitié de 7 euros qui va dans la poche du distributeur. 50% de marge qui revient au niveau du distributeur.
Et c'est quelque chose qui perdure depuis des années, ça avance peu.
Absolument. Voilà. Donc ça, c'est-à-dire la rémunération du travail, la rémunération des agriculteurs, c'est un point très important aussi pour pérenniser les filières agricoles, aussi bien en France, en Europe ou dans les pays du Sud.
Alors le dernier point que je voudrais évoquer, vous l'avez brièvement soulevé, c'est évidemment celui de l'enjeu environnemental de l'alimentation. Et avant de nous entendre sur ce sujet, Olivier Andreau, je voudrais qu'on écoute les injonctions du GIEC. Le GIEC, ce sont les experts internationaux du climat. Alors certes, cela date de 2019, mais vous allez voir, c'est toujours d'actualité. Valérie Masson-Delmotte est co-présidente du GIEC.
We humans. Nous, les humains, avons un impact sur 70% des terres libres de glace et un quart de ces terres sont en mauvais état. La façon dont nous produisons notre nourriture contribue au déclin des écosystèmes et de la biodiversité. Et quand les sols sont dégradés, ils absorbent moins de carbone.
Olivier Andreau, est-ce que les humains ont aujourd'hui la responsabilité de manger mieux ? Aussi, ou d'abord peut-être, pour polluer moins ?
Mais c'est une évidence, bien sûr. Et là, encore une démission des politiques, finalement, qui sont dans l'incapacité, alors qu'on dénonce depuis des décennies le caractère très polluant de notre agriculture ultra-intensive. Et qu'est-ce qu'il y a comme évolution ? Très peu. La seule évolution qu'on constate, finalement, c'est encore et toujours le consommateur qui, à travers son acte d'achat, se reporte vers le bio, la filière bio, et donc d'autres filières qui sont plus protectrices de l'environnement. Et donc, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est mais qu'est-ce que je fais, moi, à titre individuel, moi, consommateur ? Eh bien, puisque les pouvoirs public, puisque les professionnels ne sont pas en capacité, n'ont pas le courage politique de changer les choses, c'est à moi de prendre les choses en main. Et donc, de la même manière qu'il y a ce Nutri-Score qui me permet de savoir si le produit est équilibré ou pas, il y a d'autres scores qui sont en train de se développer. Et qui vont, finalement, c'est quoi ces scores ? C'est intéressant parce que c'est un aveu de la puissance des pouvoirs publics. Ils disent, écoutez, moi, j'ai pas le pouvoir politique.
Et on devance finalement ce que on pallie un peu à une absence des pouvoirs publics avec ces labels. Il y a effectivement Nutri-Score qui permet, il y a un label qui permet de connaître l'impact environnemental.
Le score environnemental, voilà. Qui est prévu dans la loi gaspillage et économie circulaire et qui est repris à nouveau dans la loi climat qui est actuellement discutée au Parlement. C'est très important. Finalement, c'est à nous, consommateurs, d'utiliser ces scores, de lire les étiquettes, la liste des ingrédients. C'est compliqué, le boulot de consommateur, mais c'est à nous de le faire.
Mais est-ce que ce qui est bon pour nous est forcément bon pour l'environnement ?
Alors, ça, c'est important, parce que ces scores, et ça, c'est un point important. Là, vous savez que la loi de 2020, donc sur le gaspillage et l'économie circulaire, prévoit un score environnemental pour les produits alimentaires. C'est une très bonne chose. Sauf que, là, dans sa version actuelle, si on prenait la manière de calculer qui est proposée, eh bien, les produits d'agriculture biologique ou d'agriculture extensive seraient systématiquement moins bien notés que les produits issus de l'agriculture la plus polluante.
J'ai vu
donc,
ça
veut dire que il faut changer un petit peu le mode de calcul. Donc, vous voyez, on est obligé, nous, experts, représentants des ONG, des associations de consommateurs, de rentrer dans le détail pour que ce type de score que vous utiliserez, consommateurs, demain, soit absolument fiable.
Et de sans cesse, et vous et les consommateurs, faire pression auprès des dirigeants. Merci beaucoup, Olivier Andreau, chargé de mission alimentation chez UFC. Que choisir ? Ce décryptage est maintenant terminé. Merci à Eleonore Krenik à la préparation, Hélène Avril à la réalisation. Rendez-vous sur RFI.fr pour écouter écouter cette émission, la podcaster. Guillaume Leudin vous attend dans un instant, le débat du jour. Une fiscalité internationale des entreprises est-elle possible? C'est la question ce soir. Restez à l'écoute.
Priorité santé.